disons, les époques chrétiennes et surtout l'époque contemporaine. Donc, oui. Voilà. Et une des personnes qui a marqué le siècle précédent, je sais pas si vous le reconnaissez ici, enfin certains qui l'ont vu dimanche dernier le savent, mais vous vous taisez. Ceux qui ne connaissent, simplement me disent le nom. Je sais que vous lisez beaucoup de lui dans la littérature chrétienne, dans les réflexions qui sont faites, dans la méditation, voilà. Parce que il avait une parole très synthétique quand il parlait, voilà. Donc je sais pas, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cet homme qui a vécu au siècle dernier? Il est mort en 1963, donc c'est pas vieux, et il est né en 1897, voilà. C'est non, ce Tozer, tu étais là dimanche dernier? Non. Ah, d'accord. Voilà. Ben c'est comment il s'appelle son prénom? C'est Hayden. Hayden Wilson Tozer. Tozer. Alors, si vous voyez Tozer, il y a beaucoup écrit de cantiques, de livres, etc. Voilà. Sur la prière, surtout. Voilà. Et donc, Hayden William Tozer, alors, il a vécu aux États-Unis. Donc, on a la carte des États-Unis qui nous aide, parce que c'est très grand, les États-Unis. Il est né en Pennsylvanie. Alors, j'ai pas de stylo montré, mais là, Pennsylvanie, hein, c'est là où sont les Amish. Et il était pasteur à Chicago, donc ici dans le Michigan, là. On voit pas très bien les lacs, mais voilà, dans le Chicago. Il est vécu là. Et puis après, il est passé à Toronto quelques années, qui est là, un peu par là, au-dessus de New York. Et cet homme avait vraiment une caractéristique particulière, c'est la prière. Il priait beaucoup de temps. Là, vu l'heure, je peux pas vous lire quelques témoignages. Je vous le lirai probablement dimanche prochain. Enfin, peut-être juste un passage. Un matin, la pluie bouleversa ses plans habituels de telle sorte que lui et Robert Battle, son proche ami, se trouvèrent à 9 h dans la chambre de Tozer pour la prière. Le docteur Baffles partageait la plateforme de la conférence avec Tozer et chacun se mit à genoux au côté opposé d'un lit de camp. Bien, Junior, demanda Tozer, pourquoi devrions-nous prier aujourd'hui? Je pense que nous devrions prier pour ces personnes qui sont venues nous entendre prêcher. Les deux hommes parlèrent de la prière et des choses et des personnes pour lesquelles ils devraient prier. Alors Tozer commença à parler de Dieu, de l'incarnation, de la gloire, de la majesté, de la Trinité, de la sainteté, du ciel, des anges, de l'immortalité, de l'Église et de sa mission dans le monde. Aucun ordre du jour, aucune conscience du temps, ils avaient uniquement le sentiment merveilleux de la présence de Dieu. Puis, avant qu'ils n'aient commencé à réellement prier, la cloche annonça le déjeuner. Hein, donc c'était le matin et là c'était le midi. Oh non, se plaignit Battles, nous n'avons même pas atteint la prière et la cloche du déjeuner a sonné. Bien, Junior, nous sommes réunis pour prier, sais-tu quoi? Ce que nous avions fait toute la matinée durant a été périlleusement proche de la prière. Il y avait des périodes où, alors que les deux hommes marchaient à pas marqués à travers des bois avoisinants, pendant une promenade silencieuse, ensemble, Tozer fixait une vue lointaine de son regard. Ses narines s'évasaient et disaient de toute solennité, Junior, je désire aimer Dieu plus que n'importe qui dans ma génération. Au moins une fois, Tozer perdit toute conscience du temps pendant qu'il priait dans sa chambre. L'heure où il devait prendre la parole arriva et il ne put être trouvé nulle part. Une autre personne dut le remplacer pour prêcher. Et quand Tozer apparut finalement, il déclara seulement qu'il avait eu un rendez-vous plus important. Il priait. Voilà, j'ai beaucoup de choses sur la prière à vous partager. C'est un homme qui a écrit sur la prière, donc vous pouvez disons le retrouver dans certains livres qui sont traduits en français. Peut-être Yves pourra en trouver certains. Je voulais juste vous donner des exemples de sermons. Alors je ne vais pas vous lire le sermon ce matin, on n'a pas le temps, mais sur le thème qui est d'actualité. Quand vous lisez ces sermons, vous avez l'impression qu'ils ont été dits hier, parce qu'ils sont d'une grande actualité. Un des sermons qu'il a donné dans les années 50, donc il y a plus de 60 ans, a été sur le déclin de l'autorité de Christ dans les églises. Et je vous lis juste l'introduction pour vous mettre en appétit. Mais il pourrait être donné aujourd'hui dans les mêmes termes et il est de la même actualité. C'est le fardeau de mon cœur, disait-il, et quoique je ne prétende moi-même à aucune inspiration particulière, je crois que c'est aussi le fardeau du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est un homme très humble, hein. Bien qu'il passait du temps énormément dans la présence de Dieu, même lui, ne dit pas « c'est le Saint-Esprit qui vous dit ça ». Il dit « je pense que c'est le fardeau du Saint-Esprit ». Vous voyez, il y a cette humilité, ce recul par rapport à ce que Dieu dit, parce qu'il laisse Dieu en avant dans toutes circonstances. Alors, je continue à lire son sermon. Tout au moins le début. Si je connais bien mon propre cœur, c'est seulement l'amour qui me motive en écrivant ces lignes. Ce que j'écris ici n'est pas le ferment amer de pensées agitées par un esprit de dispute à l'encontre de mes frères chrétiens. Il n'y a aucune querelle. Je n'ai été attaqué, maltraité ou dénigré par personne. Mes observations ne résultent pas non plus de quelque expérience déplaisante que j'aurais pu vivre dans mes relations avec les autres. Mes relations avec les membres de ma propre Église, comme avec les chrétiens d'autres dénominations, ont été amicales, courtoises et agréables. Mon chagrin résulte simplement d'une situation qui est, je le crois, presque universellement généralisée dans les Églises. 1950. Je pense aussi que je dois reconnaître que je suis moi-même largement impliqué dans la situation que je déplore ici. Je vais suivre l'exemple d'Esdras. Tiens, on parlait d'Esdras tout à l'heure, c'est le jour. Qui s'est personnellement impliqué dans sa puissante prière d'intercession, en se soumettant lui-même au rang des pécheurs. Et voilà la prière d'Esdras, au chapitre 9, verset 6. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Voilà la prière d'Esdras. Esdras qui était un prêtre qui a relevé Israël, qui a relevé la parole, qui a un réformateur. Voilà sa prière. Vous voyez, il s'associe au peuple, il s'associe au péché. Il n'est pas au-dessus du péché de la nation. Et voilà ce que dit Tozer, en toute honnêteté, que toute parole dure prononcée ici, à l'encontre des autres, retombe sur ma tête. Voyez-vous cette honnêteté? Parce que là, il va critiquer le mouvement évangélique, si vous voulez, de l'époque, de ce déclin de l'autorité de Christ. Donc il prend toutes les précautions pour dire... Si jamais je dis une critique devant la face de Dieu, que ça retombe sur ma tête. Voyez, il a cette honnêteté. Donc vraiment, il purifie son cœur pour dire, voilà, je vais dire quelque chose de dur, mais je prends sur moi que ce que je dis, je le dis par amour, et pas par critique ou par jugement. Voyez-vous, ces précautions oratoires, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, moi aussi, je suis coupable. J'écris cela dans l'espoir que nous puissions tous nous tourner vers le Seigneur, notre Dieu, en arrêtant de pécher contre lui. Voyez-vous l'humilité de cet homme. C'est un homme qu'on peut écouter, qu'on peut lire, parce que ce qu'il dit vient d'une application de la parole dans sa propre vie. Voilà. Donc je voulais vous faire découvrir un peu le début de ce message. Et ensuite après, il parle du déclin. 1950-60, du déclin de l'autorité du Christ dans les églises. Qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui? Je vous le lirai un autre jour. Je voudrais juste vous donner quelques références sur l'autorité du Christ. Je pense que la moindre des choses, ce serait que Christ soit une autorité dans son église. Vous êtes d'accord? Ça paraît évident. Ah bah, on en est loin. Dans Matthieu chapitre 7 verset 29, vous pouvez noter ce verset, c'est le verset où ceux qui l'écoutaient étaient frappés de ce qu'il enseignait avec autorité. Et vous disiez, les scribes et les pharisiens enseignent, mais Jésus enseigne avec autorité, hein, c'est ce verset dont il s'agit. Dans Matthieu chapitre 28 verset 18, il est écrit que tout pouvoir lui a été donné par le Père. Tout pouvoir, donc toute autorité lui a été donnée. Et voyez comment Jésus se comportait, avec une grande humilité. Il n'usait pas de son autorité, parce que c'était l'autorité spirituelle. Et quelqu'un qui use de son autorité, bien sûr, on pense aux politiques, mais ça peut être aussi des pasteurs, eh bien c'est qu'ils n'ont rien compris de la véritable autorité. User de son autorité, ça s'appelle de l'autoritarisme. Ça veut dire qu'on aime l'autorité. Mais Jésus n'a pas aimé l'autorité. Il a exercé l'autorité. Vous voyez, une grande différence entre exercer une autorité. Alors, je parle aussi au père de famille, mère de famille, exercer l'autorité avec les enfants. Quand on aime l'autorité, on l'utilise mal. Quand on exerce l'autorité dans le Seigneur, eh bien, on le fait dans la justice et dans l'amour. Et c'est tout à fait autre chose. Dans Jean, et je veux lire ce passage dans chapitre 5 et au verset 27, un autre passage sur l'autorité. Jean chapitre 5, verset 27. En effet, je lis le verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même. Voyez-vous, les hommes ont découvert beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la science? Ils découvrent. Aujourd'hui, ils dépensent des milliards pour aller sur Mars, et j'en connais quelque chose puisque j'ai participé à ces travaux à l'aérospatiale pour faire des satellites pour aller sur Mars. Et on dépense des milliards pour aller sur Mars pour chercher quoi? L'eau. Parce qu'il y a des traces de la vie. Hein. Vous voyez, mais on cherche la vie qui existe pas en elle-même. Est-ce que la vie existe dans l'eau elle-même? Non, c'est Dieu qui a mis la vie dans l'eau, mais en Dieu, il y a la vie en elle-même. Et donc, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Quand on s'approche de Jésus, on s'approche de quelqu'un qui a la vie en lui-même. Voyez-vous? Il est incarné par la vie, il est celui qui donne la vie. Et c'est pour ça que quand Jésus, eh bien, parle avec autorité, eh bien, il donne la vie, il procure la vie. Il dit que ce mal soit guéri. Et le mal était guéri. Il dit à Lazare, sors, et Lazare est rendu à la vie. Et où l'autorité, la véritable autorité qui vient de Dieu, c'est celle qui donne la vie parce qu'elle vient de Dieu et que c'est la vie qui est procurée. Amen. Et au verset 27, il dit, il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit d'exercer le jugement, c'est Christ. C'est pour ça que je suis très content que Tom ait fait cette expérience d'être libéré de cet esprit critique, parce que c'est quelque chose qu'on apprend dans l'humanisme, hein, critiquer les autres, critiquer ceci, critiquer etc. Et ça c'est anti-Christ, c'est anti-Christ, c'est totalement anti-Christ. Christ, il a accepté, il accepte le plus petit, le plus déformé, le plus vil, celui qu'on ne regarde même pas, qu'on méprise, il l'aime. Et nous devons avoir cette attitude-là. Et nous ne pouvons pas l'avoir en ayant un esprit critique. C'est pas possible. Parce que tout de suite, on va critiquer alors que tout de suite, on devrait aimer. Hello? Voyez-vous? Donc, nous sommes dans cette démarche où nous avons besoin d'être transformés à l'image de Christ et laisser uniquement le jugement à Christ, qui d'ailleurs, le jugement va se faire à la fin. Aujourd'hui, il n'y a pas de jugement. Nous sommes dans la grâce. Le péché a été jugé à la croix. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Et le jugement, il appartient à la fin à Dieu. C'est Dieu qui séparera le vil du méchant du juste, etc. Et ça, c'est le jugement dernier, mais c'est encore dans l'eschatologie, dans ce qui va venir. Et je termine par l'autorité de Jésus, qui est manifestée dans Éphésiens. Bien sûr, c'est le livre de l'autorité de Christ sur son Église, Éphésiens 1er, au chapitre 1er, verset 10, il est écrit, je lis le verset 9 pour lire la phrase en entier, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Donc réunir sous l'autorité du Christ toute chose. Étant donné que le chaos au travers du péché, s'est installé dans l'univers, dans la terre, dans l'univers, eh bien, le plan de Dieu, c'était de réunir sous Christ, sous l'autorité de Christ. Et c'est Christ, quand Christ est en autorité, c'est pour ça qu'une église, si elle ne vit pas dans l'autorité de Christ, c'est pas vraiment une église. Et c'est ce que dénonce Tozer, et je vous lirai son message un autre jour. Et au verset 22, il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est qui le chef suprême de l'Église? C'est pas le pape. C'est Christ. C'est Christ. Et nous avons besoin de vivre cela. Et la véritable Église de Jésus-Christ, elle reconnaît cette autorité suprême dans les moindres détails de sa vie, que ce soit individuelle ou collective. Et une des caractéristiques du méchant, c'est dans 2 Pierre, verset 2, chapitre 2, pardon, verset 10, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 10, c'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement, ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout ceux surtout qui, dans l'appétit de souillure, cherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Voyez-vous, si nous voulons être agréables à Dieu, faire sa volonté, nous devons aimer l'autorité du Seigneur. Amen. Vous aimez l'autorité du Seigneur? Vous voulez l'aimer davantage? Vous voulez grandir sous l'autorité de Christ? Eh bien, que le Seigneur nous aide. Et je vous délivrerai le message de Tozer un autre jour, peut-être dimanche, pour que nous puissions méditer. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis très content avec Michel, aussi mon épouse, de voir que, grâce à Dieu, et grâce aux épreuves qu'il nous a fait vivre, nous échappons en grande partie à ces critiques. Parce que Dieu nous a montré que l'autorité du Seigneur était le plus important dans une église et qu'il continue à nous aider à le mettre en pratique et à le vivre jour après jour. Parce que quand l'autorité du Seigneur est là, bien tout le reste suit. Les miracles suivent, la puissance de Dieu suit, mais c'est d'abord l'obéissance et ensuite Dieu agit selon sa volonté. Amen.